Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ingénieur Avenir. Aujourd'hui, je reçois Yvan Icard qui vient nous parler de sa passion et de son métier, les hélicoptères. Cet épisode est un peu particulier parce qu'il est coupé en deux parties. On a une première partie classique où Yvan revient sur sa carrière et son métier à Airbus Hélicoptère. Puis, sur les 10 dernières minutes, Yvan nous propose une petite explication du fonctionnement d'un hélicoptère pour celles et ceux que ça intéresse. J'espère que l'épisode va vous plaire. Bonne écoute! Bonjour Yvan et bienvenue dans le podcast Ingénieur Avenir, ça va ?
Oui, ça va bien et toi, Léo ?
Très bien, merci et puis heureux de te recevoir dans le podcast. Alors Yvan, tu as 51 ans et tu as été diplômé en génie mécanique et développement à l'INSA de Lyon en 1995. Après plusieurs années au laboratoire de tribologie à l'INSA de Lyon et un crochet en tant que professeur à l'école polytechnique de Yaoundé au Cameroun, tu décroches un doctorat chez Eurocopter qui deviendra Airbus Hélicoptère. Et maintenant, ça fait 21 ans que tu travailles sur les hélicoptères. Alors, ma première question, c'est quoi un hélicoptère ?
Pour moi, un hélicoptère, c'est juste une machine exceptionnelle. Parce que, c'est le meilleur moyen de pouvoir voler librement comme le font finalement les abeilles ou d'autres oiseaux, donc c'est vraiment un truc qui m'a passionné depuis que je suis tout petit, qu'on m'a offert, quand j'avais 14 ans, un vol en hélico dans un Dauphin VIP, et puis c'est là où tout a commencé, et que j'ai voulu plus tard en faire mon travail.
D'accord, donc tu as été piqué dès ce moment-là, et tu savais que tu voulais travailler dedans.
Ah oui, c'est sûr. De toute façon, c'est une machine tellement exceptionnelle. Et puis, tout ce que ça incombe au niveau du métier d'ingénieur, tous les domaines sont représentés. Ça va de l'électricité à l'informatique, maintenant à la mécanique des fluides, à l'aérodynamisme, la mécanique des structures, le génie mécanique, le génie climatique aussi maintenant, puisque il y a tout ça. Non, c'est très, très divers et varié. Le nombre de possibilités de travail, et après il y a en tant qu'ingénieur mais sur le produit, et après il y a le support au produit.
Ok. Et bah du coup, dans tes études, donc tu t'es orienté vers la mécanique, et c'est là-dedans que, enfin c'est sous cet angle-là toi que tu as abordé le travail sur les hélicoptères du coup?
Oui, côté mécanique. En plus moi j'avais fait de pour mon doctorat, ma spécialité en DEA, c'était la tribologie pour mon DEA. Donc, en fait, naturellement, je me suis dirigé sur tout ce qui était lié à ça. Donc, mon doctorat était dans la simulation du contact dans les engrenages spiroconiques des boîtes de transmission d'hélicoptères.
Ok.
Donc, il y avait la partie à la fois contact entre les engrenages et la partie simulation. Génération de modèles et de simulations. Et après, on a aussi validé tout ça via un banc d'essai, donc, qui sont les bancs de réception des mécaniques. C'est-à-dire, quand on assemble une mécanique d'hélicoptère, on est obligé de la passer au banc pour vérifier qu'en fait, on est bon au niveau des portées dynamiques. Donc, en fait, on les monte sur un banc. C'est un banc boucle fermée, soit électrique, soit pneumatique, soit hydraulique. Et on vient appliquer un spectre de puissance dessus. On vient vérifier que c'est tout. Lors de ma thèse, on avait aussi fait des mesures en même temps pour corréler tout ça.
Ok. Et pour revenir à la base, c'est quoi la tribologie en fait ?
C'est de tout ce qui est en contact, qui vient du grec tribos, donc tout ce qui est en frottement, les choses qui sont en frottement, en contact. Donc ça peut être le contact d'un pneu sur la route, mais maintenant il y a la biotribologie où quand on utilise des lentilles, le contact de la lentille à l'intérieur sur l'œil et dans pendant que l'œil fonctionne, et ben il faut que ça soit correctement lubrifié et tout. Ça c'est de la tribologie aussi. Les protèges de hanches, c'est de la tribologie aussi.
D'accord. Ben écoute, je te propose de retracer un petit peu ta carrière chez Airbus Hélicoptère en partant du début. C'était quand tu es arrivé en thèse, donc tu as dit que tu faisais des bancs d'essai. Donc tu étais sur la conception à ce moment-là?
Alors, ma thèse, je l'ai faite pour le service calcul, bureau d'études calcul. Donc, c'était en fait développer un outil qui nous permettait, à la fois quand on conçoit, d'avoir le bon état de contrainte avant de lancer les essais, parce que tout ce qui est engrenage, réglementairement parlant, on est obligé de les justifier en faisant des essais qui nous coûtent cher. Mais ces essais-là, si on loupe notre essai, on va être obligé de recommencer à redévelopper une denture, donc réusiner des pièces, tout ça, ça coûte de l'argent aussi. Donc si on est capable de faire bon du premier coup et de simuler en tenant compte de beaucoup de choses, c'est intéressant. Alors, mon travail de thèse n'a été que la continuité d'une autre thèse qui a été faite dans les années 90, pareil à Airbus, du moins à l'époque c'était aérospatial même, c'était même pas Eurocopter, et donc qui était à l'époque, qui était de simuler la fabrication, puisque les engrenages supéroconiques sont taillés puis rectifiés, et en fait c'est une enveloppe. Et à l'époque, c'était d'être capable d'avoir sur un ordinateur la simulation de l'enveloppe d'un spiroconique pour pouvoir simuler les contacts. Déjà commencer à faire de la conception sur ordinateur.
Ok.
Donc, après avoir fait ça, bon, j'ai été embauché et j'ai été ce qu'on appelle chez nous chargé d'affaires calcul pour la famille Super Puma. Donc, pendant...
Les Super Puma, qu'est-ce que c'est ?
Donc c'est une version d'appareil, donc qui sont la plus grosse, le Super Puma, qui est la plus grosse version actuelle qu'on a, qui sont utilisés pour les transports de troupes dans l'armée, qui sont utilisés dans le oil and gas pour le transport de passagers sur les plateformes.
Ok. Donc c'est des très gros hélicos.
Voilà, pour avoir un ordre d'idée, ça... qui fait 11 tonnes.
À 11 tonnes.
Charge pleine charge, il fait 11 tonnes.
Ok, donc l'hélicoptère plus la charge.
Voilà.
Okay.
C'est ce qu'on peut voir dans les défilés du 14 juillet où les exemples, les forces spéciales, quand ils descendent avec au bout d'une corde d'un hélicoptère, eh ben c'est la plupart du temps, c'est des Super Puma.
D'accord. Ils peuvent être laisse continuer.
Il y a des versions qui peuvent être armées et tout ça. Donc j'ai été, je me suis occupé du Super Puma pendant. 2 années. Après, il y a eu une version spéciale du Super Puma qui s'est faite avec la Corée, donc j'ai commencé à travailler dessus.
Et après, quand tu dis que tu t'es occupé du Super Puma, t'étais sur quel aspect ?
En fait, sur les parties, sur les ensembles dynamiques, donc les boîtes de transmission. Donc, c'est-à-dire à la fois les boîtes de transmission principales, les tubes de transmission, dans, en fait, toute la chaîne de transmission. Correspondant aux ensembles dynamiques, c'est-à-dire hors pièces rotor, c'est-à-dire hors pièces du périmètre rotor. Et là, ça veut dire à la fois s'occuper de quand on doit faire des modifications, parce que pour X raisons, quand on doit gérer de la non-conformité en fabrication, créer des nouvelles solutions, parce que on veut faire une version plus puissante pour tel client ou tel client, donc il y a des modifications qui sont faites et tout ça. Et après toutes ces années-là et un peu de support aussi à ce qui se passe dans les centres de révision, mais ça restait dans un périmètre correspondant qu'aux mécaniques, que du Super Puma. Et après. Il y avait le projet de développement du H175 qui est donc la première hélicoptère qui a été redéveloppé depuis une page blanche. J'ai eu la chance d'y participer puisque depuis il y en a deux, c'est la deuxième fois que ça arrive puisqu'il y a eu le 175 il y a un peu plus de 12 ans et il y a eu le 160 qu'on a certifié l'année dernière et qu'on a livré les premiers en début de cette année.
Ok. Donc, mais, quand tu dis le premier de fait depuis une page blanche, c'est qu'il n'y en avait pas qui avait été refait de zéro depuis très longtemps.
Les seuls qui avaient été refaits depuis quelque temps, c'était deux machines militaires, le Tigre, qui est l'hélicoptère de combat qu'a l'armée française, l'armée espagnole, l'armée allemande et d'autres, et le NH90, qui est un hélicoptère de transport de troupes, qui est en composite, qui est lié à un conglomérat où il y a plusieurs compagnies européennes. Donc, il y a Augusta, il y a Westland, il y a Fokker et il y a Airbus Hélicoptères qui se sont tous mis ensemble pour faire un hélicoptère pour beaucoup des pays européens. Mais avant, c'était que des versions qui existaient déjà, c'est-à-dire chez nous, les versions, ce qu'on appelle les versions écureuil, qui sont les que tout le monde connaît pour se balader, qu'on voit beaucoup dans les films aux États-Unis ou tout ça pour se balader et tout. Quand on veut faire un vol en hélicoptère, la plupart du temps, ça se passe en écureuil.
Ok. Et des modèles comme les écureuils, ça date de quand en fait la conception de ces appareils-là?
Il y en a certains. Ils ont été créés dans les années. Les premières versions ont été créées dans les années 70. Après, c'est des versions qu'on a upgradées au fur et à mesure. Hein. Au fur et à mesure, maintenant, écureuil, il y a au total, je crois qu'il y a plus de 14 versions différentes.
Ok. Mais toujours sur la même base, quoi.
Bah, il y a une base. Après, oui, bah, c'est sûr qu'un écureuil vers première version et le dernier, on sait que c'est la même famille, mais par exemple, maintenant, la structure, les verrières, c'est des trucs qui sont tout arrondis. C'est sûr que on va voir. On sait les reconnaître, nous, les gens qui ont l'habitude, on sait reconnaître que c'est telle version, parce que à partir de telle version, on a changé le type de rotor principal, ou les pales, ou les scies, donc des choses qui, visuellement, nous, on connaît, qui dépendent des versions, mais ou comme dans la famille du Super Puma, en fonction de la version 1, 2 ou la dernière version. Il y en a un qui aura un rotor de tel type avec des roulements et tout. Après, on est passé à une technique avec des butées sphériques lamifiées et ainsi de suite. Donc, en fonction de la technologie, on sait de quelle génération ils sont. Un peu comme dans les voitures, que les gens qui travaillent dans les voitures, ils savent reconnaître que c'est une version de telle version ou telle de telle année.
Mais justement, pour reprendre le parallèle avec les voitures, c'est aussi intéressant de voir que pour les hélicoptères, bon, c'est certainement des machines quand même beaucoup plus complexes, que les cycles de conception d'un hélicoptère, c'est beaucoup plus long que des hélicoptères qui ont été conçus originellement dans les années 70. Leur évolution sont encore en...
Ah oui, on a diminué le temps de développement sur des hélicoptères. Avant, il fallait compter entre 10 et 15 ans de développement. Parce que on était obligé de faire beaucoup d'essais, beaucoup de choses, et puis même pour pouvoir garantir ce que nous demandait réglementairement. À l'époque, on ne pouvait pas tout simuler, on n'avait pas les moyens d'eux. Et donc, la simulation a permis de réduire le nombre d'essais qu'on est obligé de faire pour démontrer les mêmes choses. Mais n'empêche qu'on est quand même, et c'est là où je vais parler de l'autre partie de ma carrière, où là j'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, de travailler sur le H175, de démarrer de la base. Et donc j'ai participé, parce que le H175, c'est un projet de coopération entre la France et la Chine, où on a développé un véhicule commun qui est valable des deux côtés. C'est une coopération, et en fait la partie structure plus les ensembles dynamiques arrière ont été fabriqués en Chine et essayé en Chine. Et dans ce cadre-là, je suis parti pendant 6 ans en tant que chef de projet pour gérer toute la partie des ensembles dynamiques arrière du 175. On est parti qu'il y avait les plans d'ensemble qui avaient été faits, on allait faire tous les plans de détail, on allait industrialiser l'usinage de ces pièces donc dans la société avec qui on était partenaire. Monter les ensembles proto, faire les essais proto, livrer les boîtes proto pour les premiers vols proto d'appareils, Et j'ai fait, et j'y ai participé pendant ces 6 ans-là. Ben, on a fait toute la, tout de, j'ai tout vu de A à Z. Avec les essais, les audits avec les autorités à la fois européennes, les autorités chinoises, puisque ben, comme c'était un partenariat, eux aussi, ben, avaient leur propre autorité qui venait vérifier ce que eux faisaient aussi pour après. Et, jusqu'à la livraison des premiers appareils clients. Et nous, Airbus, Eurocopter aérospatial, la première fois qu'on a collaboré avec les Chinois, ça remonte aux années 60. Ça remonte aux années 60. Moi, j'ai des collègues qui sont allés, les premiers collègues qui sont allés en Chine, ils y sont allés en 68 ou 69. Où en fait, il y a eu des... ils ont fabriqué sous licence certains appareils. Donc, les écureuils et les dauphins sont des appareils qu'ils ont fabriqués sous licence. Par exemple, l'entreprise dans laquelle je suis, qui fabrique toujours, est une des entreprises qui fabriquait déjà sous licence les ensembles mécaniques pour les dauphins qu'ils utilisent, qui sont des dauphins militaires, hein, la plupart, mais qu'ils fabriquent dans ces entreprises-là sous licence. Ils fabriquent sous licence. Bon, depuis, ils ont fait leurs modifs, ils ont fait leurs trucs à eux aussi. Mais oui, donc on est en relation avec eux depuis très longtemps. Donc après ces 6 ans en Chine, je suis rentré donc en France. Et je suis revenu donc au bureau d'études, mais là, en fait, il y a eu la création de ce qu'on appelle une première entité, et puis après elle a grossi, qui était le support bureau d'études transmission, où le rôle, et j'y suis depuis 9 ans, c'est en fait à la fois de supporter la production, qui, ben, parce qu'il arrive ce qu'il arrive. Les pièces, on a des accidents en fabrication, on a des pièces qui sont fabriquées qui sont non conformes. Et on peut pas se permettre de dire, ben, je l'ai fabriqué non conforme, je la jette. Comme dans beaucoup d'industries, où, parce que vu le volume que tu fabriques, le coût unitaire de la pièce est faible. Donc, le travail d'engineering, ça demande de vérifier si c'est acceptable, ou s'il faut créer une réparation, coûte plus cher que le coût de la pièce. Alors que nous, c'est pas le cas. Nous, il y a des pièces, suivant les pièces et suivant les procédés qui sont mis en place, on a des pièces, pour être fabriquées, elles peuvent durer 6 mois à fabrication. Entre les usinages d'ébauche, le nombre de machines sur lesquelles on passe, les traitements thermiques, pour avoir les bonnes caractéristiques, des traitements thermiques spécifiques comme de la nitruration, de la cémentation sur des zones spécifiques, des cannelures, des dentures, pour ben, qu'elles soient plus dures, pour qu'elles résistent mieux à la sollicitation en fatigue, le passage des efforts et tout. Et ben font que ben ça coûte de l'argent, ça on doit rajouter des opérations parce que les pièces peuvent se déformer. Il y a beaucoup d'engineering de fabrication aussi derrière. Et donc tout ça, ça coûte en cher ces pièces-là. Ben ça a tout son sens d'avoir des gens qui soient dédiés à traiter la non-conformité. Des pièces, de savoir comment on peut faire pour les sauver, quitte à faire une réparation spécifique, à faire un petit plan et tout ça. Et après, il y a aussi la partie support en service, où là, c'est carrément nos collègues qui sont front office support, qui ont où c'est directement le client qui est emmerdé, il lui est arrivé tel truc et il pose la question, ben voilà, lors de telle inspection. J'ai trouvé, ben, comme c'est arrivé pas plus tard quoi, en début de semaine, ah ben, lors de la vérification de tel truc, ah ben là, le goujon, il est sorti de 1 cm. On fait comment? On fait quoi? Tu vois? il y a aussi vraiment nos collègues qui sont en interface qui posent la question, qui nous posent la question, nous, à support bureau d'études. Et tu fais, ben, et pour tout ça, ben, tu appliques, les certifications, tous les documents de certif qui ont été gérés par d'autres personnes. Et tu vas traiter l'écart à tout ça et dire, ben, ok, oui, on peut la sauver, on peut pas la sauver, ça peut revenir en vol et.
Donc, t'as des gens qui sont soit en interface, soit des mécaniciens donc qui font des révisions régulières, qui vous renvoient des problèmes, qui vous remontent des problèmes à vous, bureau d'études support. Vous donnez s'il y a des, enfin vous trouvez des solutions en fait, c'est ça, que vous ajoutez après à la documentation et que vous retournez aux ateliers pour qu'ils puissent faire une réparation.
Exactement, ouais. C'est ça. C'est en fait, on agit à plusieurs endroits, c'est-à-dire c'est à la fois la partie ce qu'on appelle nous support et la partie improvement qui sont en fait les deux vont ensemble. Et moi en fait je suis à cheval sur ces deux squads, c'est-à-dire à la fois le support, c'est-à-dire majoritairement côté bien sûr support des pièces neuves, c'est nécessaire parce que elles coûtent très cher. Mais le boulot support à ce qui se passe en utilisation, c'est beaucoup plus important. Parce que la pièce neuve, c'est une pièce neuve, ok, mais on est censé la fabriquer bonne, et toutes celles qui s'usent, donc faire un support de quelque chose qui est normal, c'est-à-dire une usure, c'est normal. On est sur des ensembles qui fonctionnent. Donc, s'ils fonctionnent, ils vont s'user à cause de la tribologie. On en revient à ta question du départ qui dit, tu me disais, c'est quoi la tribologie?
Et vous utilisez ça, donc quand tu disais, il y a la partie support, la partie improvement. Improvement, ça veut dire que vous utilisez ces données-là pour les prochains modèles, pour les améliorer?
Ah, pour pouvoir, déjà oui, pour les prochains modèles, mais aussi pour dire, si on est capable d'accepter tout ça, c'est que finalement, au départ, quand on a mis ces valeurs-là au plan, et que malgré le fait que le plan, quand on a dit on va faire ces pièces avec telle tolérance, on a les personnes avec qui on est en interface qui sont côté ce qu'on appelle la préparation. Donc les gens qui vont dire ok, par rapport au plan que tu me dis, aux tolérances, je sais que je vais la fabriquer comme ça la pièce. Donc d'accord, les tolérances que tu me demandes, je vais arriver à les tenir. Le gars, de la même façon, la préparation, la production va signer qu'ils sont d'accord avec le plan, qu'ils sont capables de le fabriquer. Puis après, on le fabrique et puis pour X raisons, on n'y arrive pas. On a essayé d'améliorer les process, on a essayé d'améliorer les outillages, de faire différemment, on n'y arrive pas. Mais par contre, c'est acceptable. Et le support BE l'accepte tout le temps. Et ben alors, faisons le nécessaire et mettons un jour le plan en disant, ben voilà, finalement, au lieu d'avoir mis 0,1, on peut mettre 0,3. Et ben ça coûte moins cher, puisque finalement, au lieu de dire que c'est non conforme et qu'on l'accepte tout le temps, on dit que c'est conforme.
Ouais. Ouais, ouais. T'as toujours une boucle de rétroaction comme ça entre la production et la conception qui vient mettre à jour les plans.
Et nous, on est là pour ça, en fait. On est là pour ça, pour pouvoir avoir une boucle qui soit le plus réduite possible.
Est-ce que tu pourrais rapidement donner une idée de ce que c'est une journée type, s'il y en a une, mais à quoi ça ressemble une journée ou une semaine de travail dans ton poste?
Ah, dans mon poste, nous, la journée type, grosso modo, elle se répète vraiment, parce que nous, dans le support à la production, c'est sûr que c'est toujours très actif, parce que tous les jours, tu as des mécaniques qui sont démontées, il y a toujours des noms. Donc moi, ma journée type, c'est j'arrive à peu près à 7h30 au travail. Moi, je prends des transports en commun. J'habite à 80 km du travail, mais ça, c'est un choix. C'est que depuis qu'on est rentré, on habite à 80 km, je prends les transports en commun, mais je suis à 6h20, je pars de la maison, je prends mon bus, 7h30, je suis au travail. Et à partir de 8h, 8h15, après avoir bu un café avec les collègues, échangé sur ce que chacun a, c'est souvent le moment où on fait de l'échange informel entre collègues, Donc nous, on échange entre collègues qui s'occupent, ben, ceux des carters, de la fabrication des carters, ceux de la fabrication des engrenages, on échange un peu ensemble, tel truc. Entre collègues calcul qui, eux, s'occupent plus de ce qui est fabriqué en neuf. Donc après ce petit débrief entre collègues, on met les chaussures de sécurité et c'est, comme tous les jours, le tour au centre révision-réparation pour traiter, moi en ce qui me concerne, toutes les pièces qui sont en utilisation. Et puis après, et ça dure à la fois pour les petits ensembles dynamiques, les gros ensembles dynamiques, c'est-à-dire Super Puma, Dauphin. Les petits ensembles, c'est des boîtes de transmission arrière ou, par exemple, des petites mécaniques comme pour l'écureuil ou le C120 qui sont des petits appareils. Et puis après, il y a toutes les pièces simples qui arrivent de l'extérieur, qui viennent se faire réparer, par exemple, chez nous. Le contrôle et les contrôles non destructifs de toutes les pièces où ils ont vu des fissures ou plein de choses.
Donc toi, tous ces contrôles-là, tu les supervises, tu passes à côté, tu t'assures que tout va bien?
Du moins, c'est pas qu'on les supervise, c'est qu'en fait, ils nous présentent des non-conformités à ce que eux ont en documentation. Par exemple, lui, il lui dit bon, ok, là, il peut y avoir ça, et puis là, à tel endroit, il faut rien avoir.
Tu vas avoir tous les cas spéciaux qui rentrent pas dans la caisse.
Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On a eu ça, si c'est ça, on fait un peu plus d'enquête. T'es sûr que c'est une crique, que c'est pas un coup? Et ainsi de suite. Des fois, on va regarder un peu plus. Et si c'est réellement une crique, et que c'est par exemple une pièce qu'on appelle critique, c'est-à-dire qu'il y aurait une conséquence catastrophique sur l'appareil, et ben là, entre guillemets, on lève la main, on dit ou on a un truc qui est pas catholique. Lors d'un contrôle, on a trouvé un truc qui est pas catholique, il faut qu'on fasse une enquête. C'est-à-dire qu'on fait un incident en service, parce que même si on détecte quelque chose au centre de révision réparation, c'est très bien. Il n'y a pas eu d'incident en tant que tel, c'est-à-dire d'accident, mais on le considère comme un incident, c'est-à-dire qu'on a eu une fissure sur une pièce qu'on n'aurait pas dû avoir à tel endroit. Donc, on regarde, est-ce que c'est dû juste, c'est normal, on l'a détecté et c'est normal, tu vois. Ou c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant et qui pourrait être problématique, tu vois. On fait l'analyse, on dit non, mais c'est bon, tout est normal. Voilà, mais on classe ça. Et puis après, il y a des fois, il arrive des accidents.
Est-ce que on a une question un peu traditionnelle, c'est au niveau de l'environnement, de l'écologie, est-ce que toi, à niveau personnel et professionnel, ça te touche et comment dans ton métier ça se traduit?
Moi, à titre personnel, bien sûr, puisque moi, par exemple, actuellement, ça fait quelques années que je n'ai plus de voiture. Parce que l'utilité, j'en ai pas. Quand j'ai besoin d'une voiture, je loue une voiture. Mais à titre personnel, je veux dire, j'utilise les transports en commun. C'est déjà mieux parce que déjà, t'as pas de stress, pas de speed. Quand tu es dans un transport en commun, même si tu en as pour 20 minutes, une demi-heure, moi, en faisant 80 km en transport en commun, je mets moins de temps que certains copains qui vont sur Marseille. Et qui ont leur voiture, qui restent une heure et demie dans leur voiture et qui sont énervés. Alors que moi, je regarde ma série et tout. Donc, je suis tranquille. Et après, au niveau d'Airbus, de façon globale, rendre des machines de plus en plus efficaces, c'est important. Pour qu'elles consomment moins. Pour qu'elles, c'est normal. Passer avec, carburants, des bio carburants. Il y a des choses qui sont en train de se faire au niveau des biocarburants au niveau aéronautique. Il y a des essais qui sont faits. On fait de l'hybridation aussi. Côté Airbus avion, et ils sont en train de travailler sur le zéro émission avec l'hydrogène. Mais l'hydrogène, par exemple, c'est pour moi plus normal de le faire au niveau avion que côté hélicoptère. Parce qu'en fait, le volume qu'il faut, et puis le réservoir, c'est plus facile de le mettre dans un avion. Après, au niveau écologie, l'hydrogène, il faudra qu'on ait des systèmes qui soient avec de l'énergie verte pour pouvoir produire de façon responsable. Parce que encore, l'énergie vis-à-vis de l'hydrogène, c'est quelque chose qui est encore gourmand.
Est-ce que je peux te demander un petit exercice de vulgarisation technique, de nous expliquer comment ça fonctionne un hélico ?
Ah bah alors oui, ça on peut le faire. Un hélicoptère, il fonctionne à cause de deux. D'abord, la première des choses, c'est le premier concept qui est d'une voilure. C'est-à-dire que la voilure, comme un avion, la voilure, quand on a du vent qui passe autour d'une voilure, le vent qui passe, de par la forme de la voilure, va créer une dépression en dessous qui va créer ce qu'on appelle la portance, qui va avoir tendance à monter. Donc là, on est dans le concept de la voilure qui est la voilure qu'on a sur n'importe quel avion.
Ouais. Donc là, on parle sur un hélico, on parle du profil d'épale, en fait.
Exactement. C'est pour ça que je parlais juste de voilure et qu'après, j'ai dit un hélicoptère, c'est, vulgairement, on l'appelle une voilure tournante. C'est-à-dire que cette petite voilure-là, le concept de dire bah, quand il y a de l'air qui passe autour de cette voilure-là, de par la forme, on crée une dépression en dessous et ça monte. En plus, en hélicoptère, contrairement à l'avion où la voilure, elle est fixe, c'est-à-dire à part à la fin où on peut, avec les volets, changer. Mais en hélico, en plus, la voilure, on la fait pivoter. Donc plus on va lui mettre de l'incidence, plus on va créer de la portance aussi. Donc ça, c'est le premier concept aussi qui est différent entre les hein, c'est que la voilure, on peut l'incliner et elle est tournante, la voilure. Et ça, c'est important parce que, en fait, en fonction de quand la balle, on est sur une balle qui avance ou une balle qui recule, tu ne crées pas la même portance. Pourquoi ? Du moins, tu crées la même portance quand tu es en vol stationnaire, bien sûr, puisque ta balle qui avance et la balle qui recule de chaque côté, c'est que la vitesse de rotation qui génère la portance. Donc, on va générer une portance qui va être la même des deux côtés due à la rotation. Donc là, tout va bien. Là, tout va bien quand tu es en vol stationnaire. La portance liée à la rotation, tu le gères juste avec l'inclinaison de tes pales.
Ouais, je vois, ouais.
Par contre, quand on est en train d'avancer,
ça va plus vite d'un côté que de l'autre.
Exactement. Puisque tu vas sommer la vitesse du vent dû à la rotation et la vitesse de déplacement. Et de l'autre côté, automatiquement, tu vas avoir moins de portance. Puisqu'elles vont soustraire. Donc là, premier concept qu'il faut prendre en compte, c'est que là, comme tu as une variation de portance générée par ta pale qui avance et celle qui recule, eh ben ça va te créer un moment de basculement au niveau de l'hélicoptère, mécaniquement parlant. Donc, c'est pour ça qu'il faut que l'angle de ta pale soit pas le même en fonction de la rotation. Pourquoi ? Pour que, même si tu avances, tu ne sois pas toujours obligé de compenser. C'est-à-dire que le pilote ne soit pas toujours obligé de compenser le fait que, ben, quand tu avances, même s'il est en vol d'avancement, il n'a pas à contrebalancer. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est là, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle en dessous. Ce qui commande les pales, on a le plateau, ce qu'on appelle le plateau qui est cyclique, qui permet de mettre cycliquement plus ou moins de pas sur tes pales en fonction de leur position. Et en fait, ce pas cyclique-là, eh ben, il marche dans ce qu'on appelle le disque rotor. C'est-à-dire qu'on équilibre la machine pour que ben, le pas cyclique étant dans une certaine position, l'appareil, il va pas aller à gauche ou à droite. Tu vois, ni avant ni arrière. Et quand il va avancer, ben il va rester comme ça. Et après, en variant le pilote, quand il fait le manche du pilote, il fait varier ce pas cyclique qui permet, en fait, en faisant varier ce pas cyclique-là, tu fais varier la façon dont tu appliques individuellement à ta pale quand elle tourne. Donc, en fait, et c'est comme ça que tu vas pouvoir orienter. Et c'est comme une abeille, parce que tu vas pouvoir reculer, avancer. Quand tu es en vol stationnaire, en fait, quand tu es en vol stationnaire, tu décolles, tu es en vol stationnaire. Et en agissant avec le manche, tu agis sur le pas cyclique. Et c'est là où, autour de ce point où tu es en équilibre, si tu tires le manche vers l'arrière, et ben en fait, tu vas créer plus de portance, mais moins de portance vers l'arrière et plus vers l'avant, et tu vas avoir tendance à faire basculer l'hélicoptère vers l'arrière juste parce que tu auras changé l'angle en fonction d'un azimut et tu vas décaler. Et c'est comme ça que tu avances, tu recules, tu fais gauche-droite. Dans le disque rotor, tu te déplaces dans toutes les directions que tu veux en bougeant ton cyclique. Et le collectif, c'est la manette qu'a le pilote sur le côté. Donc, main gauche, du moins, la plupart du temps, si le pilote est à droite. Hein. Après, si le pilote il est à gauche, ça va être main droite sur le... Ça dépend. Mais donc, t'as le cyclique, c'est celui qu'on voit qui est entre les jambes du pilote. Et sur le côté, il a comme une sorte de manette qui monte. Cette manette-là qui monte, c'est ce qu'on appelle le collectif, qui fait varier le cyclique verticalement. Donc, c'est-à-dire qu'il dit, je rajoute à toutes les pales la même incidence. Je fais plus tant d'incidence à toutes les pales, indépendamment de où elles sont situées. Et ça, donc physiquement, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est comme si tu rajoutais de la portance à toutes les pales en même temps, quand tu es en stationnaire. Donc, c'est ça où tu vas grimper plus fort. Et ça, c'est le premier principe sur l'équilibre du premier rotor. Par contre, il faut, comme tu es sur une machine, tu appliques un effort d'un côté, au niveau du rotor, qu'est-ce qui va se passer? C'est la queue qui va avoir envie de tourner. On le connaît avec les jouets qu'on a tous essayé, où tu essayes de faire tourner un rotor, tu t'aperçois au bout d'un moment il tourne sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui empêche la rotation de la... Donc, c'est là où on a besoin d'un rotor arrière qui, lui, va générer une force qui va compenser la rotation du principal. Et ça, le contrôle de cette force-là, le pilote, il l'a avec les pieds, le palonnier, les deux pédales qu'il a, lui permettre, quand il appuie à droite, ça veut dire qu'il va appuyer plus fort sur la droite et que lui, ça fait que c'est l'opposé en fait de ce qu'on pense, c'est-à-dire que il va pas tourner, c'est pour qu'il tourne à droite et en fait c'est l'opposé, tu vas mettre moins d'effort, et ça va faire qu'il va pivoter vers la droite. Tu vois, c'est parce que tu mets moins d'effort, donc ça va moins équilibrer et tout ça. Après, ça c'est aussi fonction de dans quel sens le rotor il est, dans quel sens il tourne, le rotor arrière, et de quel côté il est positionné. Parce que, par exemple, nous, traditionnellement, on les positionnait toujours d'un côté, et après, pour certaines machines, on l'a positionné de l'autre côté et incliné aussi un peu. Mais ça, c'est des choix. Et dès que tu as fait cet équilibre-là, tu peux faire ce que tu veux. En fait, c'est relativement simple si on décompose tout ça en petit. En fait, c'est ça qui et c'est quelque chose que Je sais l'expliquer facilement parce que obligatoirement, je l'ai expliqué à mes enfants. Quand on a fait un tour en hélicoptère, parce que je suis tellement passionné par ça que de toute façon, il était impensable qu'on ne fasse pas un tour en hélicoptère ensemble. On a chaque nouvel embauché à Airbus a cette possibilité-là de faire un vol en hélicoptère. Nous, on l'avait fait, mais voilà, mais c'est vrai que c'est juste magique.
Et ben d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés par les hélicoptères, je suppose que ils peuvent te joindre via l'annuaire des alumni.
Oui, bien sûr, ils peuvent me joindre avec plaisir. Avec plaisir, oui. Et puis, des anciens NINSA, je sais, j'ai pas les chiffres, mais à Airbus, il y en a un certain nombre. Il y en a un certain nombre à Airbus hélicoptères qui viennent de plusieurs départements. Hein. Ça peut être génie électrique, génie mécanique à l'époque et développement, génie mécanique et conception. Après, je sais que ça a changé un peu les noms, mais il y en a beaucoup. Hein. Bah oui, côté production, côté bureau d'études, côté support client, c'est vaste.
Eh ben, Yvan, merci pour ton temps et pour tes explications.
Ben, de rien, merci bien.
Et voilà, cet épisode est terminé. Merci encore à toi, Yvan, pour nous avoir partagé ton expérience. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes en cherchant Ingénieur Avenir ou INSA dans votre application de podcast préférée. Ingénieur Avenir est disponible sur Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify et toutes les autres applications de podcast. Ce podcast a été enregistré et réalisé par Léo Pernamunier avec l'aide d'Amélie Berthe. Ce podcast est le fruit de la collaboration de la pépinière Alumni INSA Lyon, entité junior d'Alumni INSA Lyon, avec la chaire Ingénieur INSA, philosophe en action. Et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast Ingénieur Avenir.